Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette dernière émission de l'année, dans la foulée des explorateurs qui peuplent depuis deux semaines les antennes de France Culture, nous vous proposons un voyage. Ce voyage n'est pas tributaire du nombre de kilomètres parcourus, il est surtout et avant tout un déplacement intime, un déplacement intérieur. Pour qu'il puisse s'accomplir, il faut que, sur la scène du théâtre, s'offre au regard bien davantage que le quotidien qui nous est familier. Il faut que cette scène s'ouvre à l'autre et il se trouve que dans ce domaine, la science est un partenaire actif des artistes. Quand les ethnologues prennent place, eux aussi, derrière le rideau rouge, ce sont d'autres récits qui se font entendre. Nous ouvrons aujourd'hui le chapitre vagabond d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement d'un art qui nous est d'autant plus proche qu'il explore les lointains. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
Je n'ai jamais été formé à la profession d'ethnologue. Je suis un ethnologue de raccro, un ethnologue improvisé qui, d'une part, parce qu'il s'était engagé dans une carrière philosophique, qui est une carrière noble, mais disons casanière, d'autre part, parce que, enfin, mes goûts intimes me portaient au contraire vers l'aventure et le spectacle du monde et chercher le seul terrain où puissent probablement se concilier ces deux contradictions.
Bonjour Anne-Bert.
Bonjour.
Vous travaillez au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Vous êtes responsable de l'auditorium à la direction du développement culturel. Dans ce musée se trouve une salle de théâtre qui porte le nom de Claude Lévi-Strauss, dont nous venons d'entendre le nom. Bonjour Philippe Gélin.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue, bientôt à l'affiche de trois spectacles mis en scène par Macha Makaïef au théâtre de la Criée à Marseille. Spectacle où conférence, spectacle intitulé « Les âmes offensées » où vous racontez sur scène vos voyages chez les derniers chasseurs inuits, les Soussous de Guinée et les guerriers Maasai. Alors nous allons avec vous deux entreprendre un voyage au long cours, à mi-chemin entre le théâtre et l'ethnologie. Mais avant cela, je voudrais vous faire écouter ceci. Si vous reconnaissez les cris que nous entendons actuellement, Philippe Gélin, Anne-Bert.
Pas du tout.
C'est Antonin Artaud. Antonin Artaud, enregistré en janvier 1947 dans une conférence intitulée « Pour en finir avec le jugement de Dieu ». Et si j'ai souhaité que nous entendions Antonin Artaud en ouverture de cette émission, c'est parce que c'est quand même l'homme qui a fait rentrer sur la scène de théâtre la nécessité de la chair, des affects, des passions. C'est celui qui a dit que le cerveau seul ne pouvait rien et que l'acteur devait engager bien plus que son seul intellect. Antonin Artaud qui a beaucoup voyagé, il est allé au Mexique où il a pris diverses substances pour éprouver les choses dans leur totalité, m'amène à une première question qui est une question sur l'ethnocentrisme. À votre avis, à trop être ethnocentrique, de quoi nous privons-nous, Philippe Gélin ?
Nous nous privons du regard des autres sur nos propres cultures. Nous nous privons de cette connaissance, cette incroyable diversité des cultures à travers le monde. Nous nous privons aussi, comme le soulignait Claude Lévi-Strauss en introduction, de ce spectacle du monde.
Est-ce que nous ne nous privons pas aussi de notre regard sur les autres cultures, Anne-Bert ?
Je dirais que nous nous privons surtout de la possibilité du dialogue et de la rencontre. En ce sens, nous allons vers un assèchement de notre propre culture. Ce qu'on peut constater, c'est que dans l'échange, dans l'ouverture, dans l'idée d'accepter que d'autres peuvent avoir raison ou peuvent être entendus, on ouvre des nouveaux sillons de création et de créativité qui n'auraient pas eu lieu si chacun avait continué à créer en parallèle.
Mais cette acceptation, c'est un travail qu'on doit faire sur soi-même. Là, je m'adresse de nouveau à l'ethnologue Philippe Gélin.
C'est un travail qu'on doit faire sur soi-même, c'est un travail que l'on fait depuis de nombreuses années et qu'il faut sans arrêt remettre en question, relancer, il faut sans arrêt renouer le fil et essayer d'aller au-delà des clichés en fait que l'on peut et des images que certains médias peuvent porter sur les communautés à travers le monde.
Se battre contre les clichés, c'est le travail qui est effectué au sein du musée du Quai Branly, Anne Behr.
C'est pas comme ça qu'on le prend. Nous, notre mission, c'est de présenter les cultures que nous représentons et de donner des clés, évidemment, aux spectateurs ou aux visiteurs. Ensuite, lui se fera sa propre idée, reviendra sur les clichés ou non. Ce n'est pas une bataille idéologique.
Qu'est-ce qui pousse un ethnologue à se produire sur une scène de théâtre quand son travail, c'est de justement prendre l'avion et d'aller hors de France ou hors d'Europe pour étudier d'autres cultures, Philippe Gélin?
Alors, ce qui m'a poussé à aller sur une scène de théâtre, c'est l'amitié que nous avons, Macha Makaïef et moi-même, et le fait que je travaille depuis de nombreuses années sur son propre processus créatif, et que dans ce cadre-là, il y a déjà une quinzaine d'années, on a envisagé à sa demande, de mettre les connaissances, une forme de connaissance scientifique en scène. Elle en rêvait. Moi, de mon côté, j'ai la chance de pouvoir voyager, de faire énormément de terrains ethnographiques en fait à travers le monde. Et j'avais aussi envie de donner à voir ce qu'était mon métier, ce qu'étaient les coulisses de mon métier, ce que je pouvais vivre moi en tant qu'ethnologue sur le terrain. À l'origine, il n'était pas question que j'aille moi sur scène. Et en fait, tout l'intérêt en fait des âmes offensées, c'est que Macha a tenu à ce que mes carnets de terrain, je lise mes carnets de terrain, et que ces carnets de terrain et ces histoires soient mises en scène par elles-mêmes, et que ce soit moi, le chercheur, l'ethnologue, avec ma carcasse, qui prend la parole.
Pour incarner le récit. Il se trouve que ces carnets, vous les avez portés déjà avant d'aller à la Criée sur d'autres scènes, qu'ils vont aller au musée du Quai Branly. Lequel musée s'ouvre à la création vivante, ce qui paraît curieux, mais ce qui est dans la mission même du musée du Quai Branly, Anne Behr. On s'attendrait à ce qu'un musée soit dans la conservation et non pas dans l'art vivant. On ne pense pas forcément que c'est là la vocation d'un musée. Pourquoi est-ce que le musée du Quai Branly a cette programmation de spectacles qui arrivent d'un peu partout? Il y en a qui viennent des steppes d'Asie, il y en a qui viennent du Mexique, d'autres d'Afrique. Pourquoi?
Alors c'est là qu'il y a un grand malentendu à lever. Le musée du Quai Branly présente les œuvres de beaucoup de cultures dont la plupart sont encore vivantes, et bien heureusement. Et la programmation du théâtre Claude Lévi-Strauss est conçue un peu en pendant de la programmation d'exposition temporaire, parce que la plupart de ces cultures ont une culture orale, oui. En fait, principalement. Et donc, comment présenter l'oralité si ce n'est, bien sûr, de préférence sur la scène d'un théâtre. Et la plupart de ces cultures sont encore vivantes. Donc, la programmation d'art vivant, elle est au musée du Quai Branly, essentielle, elle est au cœur de nos missions, bien plus que pour un autre musée. Les expositions vont montrer les objets, le patrimoine matériel, et le théâtre Claude Lévi-Strauss va montrer cette culture dans sa dimension immatérielle. Mais sans que ce soit ni un conservatoire du folklore tel que justement l'Occident se l'imagine, et pour montrer ce que la globalisation est encore un moyen d'enrichir ces cultures qui continuent de vivre dans le monde d'aujourd'hui. C'est vraiment ça qu'on cherche à montrer.
Mais comment faites-vous, et je me retournerai vers vous Philippe Gélin, parce que vous payez de votre personne dans cette conférence spectacle, je trouve ça très intéressant, comment faites-vous justement pour éviter le folklore? Parce que il arrive qu'on puisse voir, dans le cadre du Festival d'Avignon ou sur les scènes parisiennes, en dehors du musée du Quai Branly, des spectacles qui viennent de loin, voire de très loin, qui sont représentatifs de cultures que nous ne connaissons pas et qui, une fois ramenés sur la scène européenne, perdent absolument tout leur sel, toute leur vitalité et presque leur raison d'être. Comment faites-vous pour éviter cet écueil-là, justement, du pittoresque ?
Là, c'est une question de regard. Percevoir la sincérité de l'artiste, parce qu'on parle de culture, mais on parle aussi et surtout d'artistes. Finalement, qui viennent du fin fond de l'archipel d'Indonésie ou qui viennent des portes de l'Europe, on parle d'une expression artistique. Évidemment, aujourd'hui, le musée du Quai Branly, on a des relais en travaillant sur des expositions dans nos relations internationales. On a des projets très originaux qui nous parviennent. Et l'écueil, on l'évite en rencontrant une forme d'art sincère.
Cette sincérité, est-ce que ce n'est pas ça justement que cherchait Macha Makayaf en vous demandant à vous de lire ces récits de voyage chez les Maasai, chez les Soussou, chez les Inuits, Philippe Gélin? C'est-à-dire que si un acteur s'était chargé de représenter ou de dire à votre place, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui s'en allait de l'authenticité de votre témoignage?
Oui, je crois que c'était ce qui était recherché par Macha Makayaf, le fait d'aller vers une forme de sincérité, une forme de retranscription d'une réalité hein, que je peux vivre, ou de forme de réalité que je vis sur le terrain. Et je crois que à partir du moment où vous passez plusieurs mois, voire plusieurs années sur certains terrains, je pense que vous êtes quand même à même de rendre compte de cette forme de réalité vécue sur le terrain. Et ça vous permet aussi, vous parliez de l'exploration des lointains. Moi, je pense que ça permet aux spectateurs qui sont présents dans le cadre de ces conférences, en fait, d'explorer leur propre lointain. C'est-à-dire qu'on touche à quelque chose qui relève de l'imaginaire, nos imaginaires, qui nous font aimer certains terrains, qui nous font fantasmer sur certaines communautés, qui nous font dire que certaines disparaissent alors que, comme le dit fort justement Anne, toutes ces communautés se transforment. Et c'est... Avec Macha, on a pensé qu'il était intéressant de travailler justement sur ces dynamiques de transformation et sur nos parts de responsabilité, sans porter de jugement, sans être moralisateur hein, sur ces situations, mais en étant sincère, en livrant mon discours, ce que j'ai ressenti sur le terrain, ce sont quand même des carnets de notes, des carnets de terrain qui sont bien sûr ensuite retravaillés pour être scénographiés, mis en scène. Mais je crois que la sincérité réside à la fois dans le fait que ce sont mes propres textes qui sont retravaillés et aussi dans le fait que c'est moi qui
c'est honnêtement
à mes risques
subjectif.
Et périls,
c'est sincère parce qu'on
joue sur scène, voilà.
Alors à la rencontre de quoi ou de qui va-t-on lorsque justement on prend l'avion pour des destinations autres? Je vous propose d'écouter sur ce sujet Anne-Berthe Philippe Gélin le témoignage et le point de vue d'un ethnologue spécialiste de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il s'appelle André Itéanu, et il parle de l'altérité.
France Culture,
une saison au théâtre,
Joël Gaillot.
Cette expression d'autre, c'est une expression relativement mauvaise pour nous en tant qu'ethnologues, parce que les Occidentaux, comme nous, ont tendance à toujours voir l'autre comme un individu. Or, on cherche des individus partout, en quelque sorte. Or, l'ethnologue doit s'occuper de chercher au-delà de l'individu, ou en deçà de l'individu, ou en dehors de l'individu, quelque chose d'autre, qui est justement cette altérité culturelle qui ne relève pas d'un individu particulier, mais qui relève d'une collectivité, des pratiques. Et donc, mettre sur le même plan l'autre individuel et l'autre culturel, c'est pour un ethnologue, en tout cas pour moi, pour l'ethnologie que je pratique, une erreur. Et il ne faut pas faire ça. En tant qu'ethnologue, on fait l'erreur toujours de se laisser captiver par l'autre individu. On sombre là-dedans et puis on se dit « Ah non, il ne faut pas que je sombre là-dedans, il faut que je revienne à mon travail », c'est-à-dire à cette capture de autre chose que l'autre en tant qu'individu.
Criolo cantando samba, era coisa feia, esse nego é vagabundo, joga ele na cadeia, hoje o branco tá no samba.
Est-ce que, à la lueur de ce que vient de dire André Itéanu, fort de vos propres expériences, Anne-Berthe Philippe Gélin, vous auriez à nous proposer, nous livrer une définition de l'altérité dont nous serions-nous sans doute assez loin? Qu'est-ce que l'autre, Anne-Berthe? Où est l'autre? Est-il loin?
Moi, du point de vue du théâtre, c'est l'individu que je cherche et non pas la forme culturelle. Et c'est en ça que théâtre et l'ethnologie ont beaucoup à sa portée. Puisqu'on parle d'artiste, on parle d'une expression sincère mais singulière. Donc l'altérité, elle peut très bien se trouver au bout de la rue. Il se trouve que nous, on travaille sur les cultures non occidentales. Donc elle est évidemment un peu plus loin que ça, mais puisqu'on est aujourd'hui justement pas dans une perspective ethnologique crépusculaire qu'a pu être celle de Claude Lévi-Strauss, et qu'on pense que la globalisation est aussi un processus d'enrichissement, puisque on est dans le réel et qu'aujourd'hui tout s'échange, les altérités se nourrissent les unes des autres. On n'a plus de tribus perdues que personne ne connaîtrait et qui nous apporterait une forme de révélation sur ce que peut être l'altérité. On parle de l'ethnologie, c'est quand même une science humaine.
Elle est si positive que ça, cette globalisation ?
Elle travaille sur ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Elle n'est plus là pour rapporter ce que peuvent être des sauvages emplumés, et qui est en fait une forme de complaisance exotique, qui a pu avoir, en tout cas pour le grand public, cet aspect-là. Donc la globalisation étant là, l'ethnologie aujourd'hui, elle s'attache aussi à montrer ce qui perdure, ce qui se transforme, ce qui disparaît. Et dans ce qui disparaît, bien sûr que c'est toujours une peine immense que de voir une forme singulière et une forme d'expression d'un rapport au monde unique qui disparaît. Moi, je suis une optimiste. Il faut aussi voir ce qu'il y a de beau dans cet échange.
Philippe Génin ?
Je crois qu'il y a jamais eu autant de diversité à travers le monde que depuis cette période de globalisation dont tout le monde parle. Et je crois qu'il faut, d'une certaine façon, saluer cela. Et puis, saluer pourquoi ? Parce qu'en tant qu'ethnologue, je pense qu'il y a une somme incroyable de nouveaux terrains à explorer. Et il faut aussi essayer de saisir cette diversité qui a ceci de particulier, c'est que les communautés, les gens à travers le monde sont connectés, échangent. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de passionnant pour les ethnologues à venir, en tout cas, ces nouvelles générations. Je pense qu'il y a des terrains fabuleux à explorer.
Mais je poursuis sur cette idée de globalisation qui est intéressante, Anne-Bert. Si j'entends bien, est-ce qu'il y aura à terme hybridation, contamination des formes culturelles les unes par les autres ? Et est-ce que c'est déjà le cas ? Par exemple, quand vous allez chez les Inuits, quand vous allez chez les Maasai, quand vous allez chez les Soussous, Philippe Génin, vous constatez une hybridation ?
Bien sûr, elle est là depuis la nuit des temps, cette hybridation. Et je pense qu'on la vit aujourd'hui sur nos terrains, mais elle a toujours été. Elle a toujours été. Les peuples à travers le monde ont toujours échangé. Donc c'est notre rôle de montrer comment cela s'est passé aussi. Quand Itéa nous parle, nous dit qu'il faut sortir de l'individu et peut-être aller au-delà, voire en deçà. C'est à la fois penser l'individu comme un être social et le penser dans la société, mais dans, pas uniquement dans sa société, dans sa place dans le monde aujourd'hui. Hein, et puis aussi, parler, moi, à mes yeux, l'ethnologue est aussi un glaneur d'émotions, celles d'autrui, façonnées par les siennes propres aussi. Donc, y compris dans la restitution ethnographique, on vit des formes d'hybridation, de toute façon, aussi.
On vient d'entendre dans l'ordre, Philippe Génin, Anne-Bert, des chants Maasai, Inuit et Soussous. Vous le disiez tout à l'heure, Anne-Bert, souvent il n'y a pas de texte dans ces cultures non européennes.
Il y a des textes,
il y a du langage,
mais ne sont pas écrits.
Il y a du langage, il y a de l'écriture, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de textuellement écrit, effectivement. Il y a une question que je me posais par rapport à ça, c'est comment se transmettent ces formes culturelles dans les peuples eux-mêmes. Est-ce que, par exemple, le rituel est une chaîne de transmission possible ?
Sur le rituel, je laisserai parler l'ethnologue, mais ce qui est certain, c'est que quand on n'a pas l'écriture, on a plein de moyens mnémotechniques qui sont pas forcément des mots. Donc il y a de toute façon la mémoire collective qui se transmet, et il y a aussi plein de petits moyens matériels. La récitation des généalogies dans le monde kanak, elle se fait sur des supports de vannerie, avec des petits nœuds, chaque tige étant une branche de la famille. Chez les aborigènes d'Australie, ce sont ces fameux pictogrammes qu'on connaît assez bien.
Est-ce que le spectacle, la représentation, fait partie des transmissions possibles? La représentation théâtrale, Philippe Gélin?
Alors encore une fois, parler de représentation théâtrale au sein des communautés, certes, certaines communautés maintenant mettent en œuvre, utilisent ce véhicule qui est le théâtre, mais en fait, il y a toujours eu dans toutes les communautés, à travers certains rituels, des formes de mise en scène pour transmettre des connaissances. Donc il fallait que ces mises en scène soient efficaces, c'est-à-dire qu'elles jouent leur rôle. Donc on a toujours eu au sein des communautés une mise en scène des connaissances, une mise en scène des corps, un travail sur les corps, et je pense que la transmission des connaissances et des savoirs passe aussi par le travail sur les corps.
Mais vous auriez un exemple Philippe Gélin, concret qu'on puisse s'imaginer justement, qu'on puisse avoir une idée précise.
Prenons le chant Maasai que vous venez d'entendre. C'est un chant qui est performé en fait pendant les séances d'initiation des jeunes hommes en fait, hein, avant qu'ils ne deviennent guerriers. Donc les cérémonies de circoncision. Là, ce qu'on ne sait pas et ce que justement je mets en scène dans le cadre des âmes offensées, c'est toute cette dynamique d'initiation qui passe à la fois par des propos tenus par les aînés, par les ancêtres et les anciens auprès des jeunes pour leur apprendre à vivre en communauté, en société, un travail sur les corps, ces jeunes dansent, un travail sur les liens entre les hommes et les femmes pendant ces cérémonies d'initiation aussi, etc., etc. Si on prend les Inuits par exemple, les Inuits héritent du prénom d'un ancêtre, et en héritant du prénom de cet ancêtre qui n'a pas de lien de parenté forcément avec soi, en héritant du prénom de cet ancêtre, on hérite aussi de ses manières de penser et d'agir. Ce qui fait que dans certaines communautés du Groenland, les Inuits ont souvent deux anniversaires, l'anniversaire de l'ancêtre dont ils ont hérité du nom et puis leur anniversaire propre. Voilà. Et donc, à travers cette transmission du nom, il y a une transmission par les gens qui ont connu cet ancêtre, des manières de penser et d'agir de cette personne. Ce qui fait que parfois, vous pouvez arriver dans une communauté et voir un enfant fumer une pipe, sans la fumer vraiment, mais la tenir entre ses dents, tout simplement parce que l'ancêtre dont il a hérité du nom était un fumeur de pipe. Voilà.
Il y a des troupes que vous n'avez pas pu faire venir, Anne-Bert, au musée du Quai Branly, parce que peut-être politiquement c'était compliqué de les faire venir, parce que esthétiquement c'était impossible de les accueillir. C'est arrivé que vous ayez dû renoncer?
Non.
Non?
Non, les questions qui peuvent se poser sont plus des questions de complexité de production, mais on trouve toujours une solution. En tout cas politiquement ou sur des formes esthétiques, non, il n'y a jamais eu de veto, si telle est la question.
Anne-Bert, vous me parliez en préparant cette émission de l'homme qui a ouvert le musée du Quai Branly lorsqu'il a été inauguré et qui a fêté les 10 ans du musée du Quai Branly en 2016, c'est Satoshi Miyagi, comme étant quelqu'un qui avait réussi à synthétiser au fond le projet du musée du Quai Branly. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé avec cet artiste japonais?
Oui, très rapidement, le projet du musée du Quai Branly s'articule autour de l'axe du patrimoine, donc des objets, mais aussi de la recherche et de l'ethnologie. Et ça, c'est plutôt notre héritage du musée de l'homme. Satoshi Miyagi, que nous avons invité à créer une pièce pour les 10 ans du musée, donc une pièce spécifique au musée, s'est emparé vraiment des spécificités du musée, en commençant par lire Claude Lévi-Strauss et ce que Claude Lévi-Strauss avait pu écrire sur le Japon. Et dans ses récits sur le Japon, Claude Lévi-Strauss élabore une théorie d'un mythe originel qui se serait décliné d'une part dans la tradition japonaise et d'autre part dans la tradition navarro. Cette mise en parallèle de deux mythes fait évoquer à Claude Lévi-Strauss la possibilité d'un mythe originel commun, qui aurait voyagé par le détroit de Bering. Ce qu'a fait Satoshi Miyagi, c'est que toute la troupe a lu L'autre face de la lune, donc ce livre de Claude Lévi-Strauss, et ils ont fait des ateliers d'écriture collective, donc ce qui était la première fois que la troupe avait ce genre de pratique, pour tenter d'étayer ou d'explorer, en tout cas, l'hypothèse de Claude Lévi-Strauss. Ce qui a donné un spectacle en trois parties. La première, c'est le conte japonais. La seconde, c'est le conte navarro. Et la troisième, c'est la création collective d'un mythe originel.
Autour de cette hypothèse.
Autour de cette hypothèse. Oui. Ce qui est très passionnant, c'est qu'on voit que la théâtre et l'ethnologie s'enrichissent, se répondent. On a l'homme de théâtre qui saisit une hypothèse ethnologique pour engager de nouveaux processus créatifs. Et on a le théâtre qui devient un outil d'exploration pour éprouver l'hypothèse ethnologique.
Vous sentez-vous, Philippe Gélin, devenir homme de théâtre en montant sur la scène du théâtre ?
Pas du tout.
Non, c'est vrai ?
Non, pas du tout. Je reste profondément ethnologue. Et par contre, c'est avec un réel plaisir que je monte sur scène. Maintenant, je ne vous aurais peut-être pas dit ça il y a quelques années. On l'a joué devant plusieurs milliers de spectateurs hein, depuis qu'on l'a lancé avec Macha Makeyev, ce spectacle. On a maintenant la trilogie. Non, c'est une question que l'on me pose souvent. Non, je pense que j'angoisse. Je convoque tous les dieux de la planète avant d'entrer sur scène. Joue mon propre rôle, en fait. Et il y a une équipe hein, derrière tout cela aussi. Hein. Il y a des différentes régies. Mais une fois que je suis sorti de scène, je ne me prétends pas homme de théâtre, loin de là. Par contre, utiliser le théâtre comme moyen d'expression pour faire passer ce type de connaissances auprès du plus grand nombre, oui.
Ça, oui, mais c'est justement, ce plus grand nombre, est-ce que vous arrivez à voir si ce sont des spectateurs de théâtre ou justement des curieux d'ethnologie ? Parce que vous me disiez, Anne-Berthe, que justement les conférences sur l'ethnologie au musée du Quai Branly rencontraient un succès phénoménal. Les gens ont envie de ça, ils ont envie de sens, ils ont envie de peut-être de retrouver des mythes originels ou des mythes anciens, je ne sais pas, mais il y a un besoin de ça.
Alors, on a une diversité de spectateurs incroyable parce qu'on va des jeunes enfants, des écoles, en passant par les parents, les grands-parents qui viennent de tous horizons. Il faudrait poser la question à l'équipe de la Criée à Marseille ou à d'autres théâtres, mais on joue toujours à guichet fermé. Et je puis vous dire qu'ensuite, nous avons des bords scènes avec Macha Makeyev. Les bords de scène sont souvent plus longs que le spectacle.
C'est les rencontres avec le public.
Et les rencontres avec le public, et c'est ce qui m'intéresse aussi. Il y a ce à quoi je ne m'attendais pas, moi, en tant qu'ethnologue. Il est clair que quand vous êtes sur scène, vous sentez le public, vous sentez ses réactions. On sent les respirations, les rires. Parfois, on est étonné. On se dit, les gens réagissent là, alors que je ne m'y attendais pas. C'était pas prévu. Donc, il y a un réel plaisir à jouer. Et puis, il y a aussi un réel plaisir à échanger. Mmh. Moi, je me dis que quand un enfant sur un bord de scène me dit, mais comment fait-on pour devenir ethnologue ? Je me dis, ben voilà, on a gagné, quoi, quelque part. Si on peut éveiller des vocations.
Mais le jour où il vous demandera comment fait-on pour devenir ethnologue et acteur, Philippe Gélin ?
Oui. Alors comment ?
Là, il va falloir envisager une reconversion.
Il faudra envisager une reconversion, oui. Ouais.
Merci beaucoup à tous les deux.
Bonango Mandela Tina, la percona, la percelicona.
Les âmes offensées de Philippe Gélin, créées par Macha Makeyev, qui nous ont réunis aujourd'hui, se jouent au théâtre de la Criée à Marseille. Du 25 janvier au 3 février, ces propositions viendront ensuite, dans quelques mois, au musée du Quai Branly, où vous travaillez, Anne-Berthe, les 15, 16 et 17 juin. Et je signale aux auditeurs qui ne sauraient pas quoi faire de demain que le musée du Quai Branly à Paris, si vous êtes parisien, est ouvert à partir de quelle heure le matin, 1er janvier ?
11h.
11h du matin. Vous pouvez... Et même, vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Bientôt 16h, Inès Duperron, Pascal Baudin, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Nous vous souhaitons une très très belle année 2018 et un excellent réveillon ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Il est temps de laisser la place à Aurélie Lunon et son magazine De cause à effet. Distance between you and me.
Victoria Mkwenge
Hasimbonanga tatiwe chuchina la pekuna la wafela kuna
Neil Agate
Hasimbonanga.